Radio Prague, les informations.
Petr Nečas, à Paris, François Fillon appuie la candidature d'Areva pour Temelin. Le mari de Yulia Tymoshenko a obtenu l'asile politique en Tchéquie et l'archevêque Dominique Tuka a été nommé cardinal par le pape. Le Premier ministre tchèque était en visite en France ce vendredi à Paris. Petr Nečas a été reçu par son homologue François Fillon. Celui-ci a réaffirmé le soutien du gouvernement français à la candidature d'Areva pour la construction de réacteurs nucléaires à la centrale de Temelin, a indiqué Matignon. Areva est en course avec le russe Atomstroy Export et l'américain Westinghouse dans l'appel d'offres pour la construction de deux nouveaux réacteurs. Les candidats ont jusqu'au 2 juillet 2012 pour déposer leurs offres et la décision finale est attendue en 2013, alors que Paris s'efforce de mettre en avant la qualité de son offre en matière de nucléaire civil. Le chef du gouvernement a évoqué avec M. Nečas les principales conclusions du rapport remis cette semaine par l'autorité de sûreté nucléaire au sujet des tests de résistance des installations françaises à la lumière de la catastrophe de Fukushima. Et puis à noter encore que lors de cet entretien, messieurs Fillon et Nečas ont aussi abordé les questions européennes, notamment la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet du 9 décembre, d'après Matignon. Alexander Tymoshenko, mari de l'ancien premier ministre ukrainien Yulia Tymoshenko, a obtenu l'asile politique en République tchèque. Le ministre de l'Intérieur, Jan Kubice, a confirmé l'information lors d'un point presse vendredi après-midi, précisant que la demande avait été faite il y a plusieurs mois. Yulia Tymoshenko a été condamnée l'année dernière à une peine de prison de 7 ans dans un procès qui est considéré par les médias occidentaux comme manipulé. Que selon le journal Pravo, Alexander Tymoshenko se trouve déjà en République tchèque, cette nouvelle risque de provoquer un refroidissement dans les relations entre la Tchéquie et l'Ukraine. L'archevêque de Prague, Dominique Duka, fait partie des 22 archevêques élevés au rang de cardinal par le pape Benoît XVI ce vendredi. Celui-ci a annoncé leur nomination suite à la messe de l'Épiphanie donnée au Vatican. Leur nomination prendra acte lors d'une cérémonie le 18 février prochain. Dominique Duka, âgé de 68 ans, devient ainsi le second cardinal tchèque actuel après Miloslav Volk. Ainsi, Dominique Duka pourra un jour faire partie du conclave qui élira le prochain pape. Et puis à noter que le ministère de la Santé a recommandé jeudi aux femmes portant des prothèses mammaires PIP défectueuses de se les faire retirer. Le porte-parole du ministère, Vlastimil Sershen, a précisé que la décision avait été prise après consultation de groupes d'experts. Le ministère a exhorté les femmes concernées à consulter leur chirurgien. Un éventuel retrait de ces implants concernerait près de 2000 femmes tchèques. C'est la semaine prochaine que doit commencer à Prague le tournage du film adapté du roman éponyme de Victor Hugo, L'homme qui rit, réalisé par le français Jean-Pierre Améris. Le film met en scène Gérard Depardieu ou encore Emmanuel Seigné. Le tournage devrait durer jusqu'à la fin février. On finit par un mot de météo. À noter que de fortes chutes de neige compliquent la circulation dans le nord de la République tchèque. Plusieurs routes dans les monts métallifères sont restées fermées et la police routière a lancé un appel à la prudence quant à l'état de l'autoroute D8. Samedi, jour de fête des Vilma, le temps en République tchèque sera nuageux avec des chutes de neige par endroit. Les températures maximales se situeront entre 1 et 5 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information présenté par Anna Kubichta.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, merci Anna Kubichta pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, la demande d'asile à Prague du mari de Yulia Tymoshenko risque de refroidir encore davantage les relations diplomatiques entre Kiev et Prague. C'est aujourd'hui la fête de l'Épiphanie et nous vous emmenons dans les rues du quartier du château de Prague où a eu lieu jeudi la traditionnelle procession des trois ramages. En deuxième partie d'émission, nous écouterons Alena Gebertova qui a rassemblé dans sa revue de presse Miroir de la société une série d'articles consacrés au bilan de l'année écoulée et aux perspectives de celle qui commence. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Alors que Yulia Tymoshenko vient d'être condamnée à Kiev à 7 ans d'emprisonnement ferme, son mari vient de déposer à Prague une demande d'asile. Cette demande risque de refroidir les relations diplomatiques déjà tendues entre Prague et Kiev. Selon toute vraisemblance, la demande d'asile d'Alexandre Tymoshenko devrait être acceptée par le ministère de l'Intérieur. Cette demande s'ajoute à la série des affaires qui ont bouleversé les relations entre la République tchèque et l'Ukraine l'année dernière. On se souvient qu'en janvier 2011, Prague avait accordé l'asile à Bohdan Danilichin, ex-ministre de l'économie du gouvernement Timoshenko. La République tchèque avait en outre refusé son extradition en Ukraine à la suite du mandat d'arrêt international émis par Kiev à l'encontre de l'ancien ministre. Quelques mois plus tard, l'Ukraine avait renvoyé pour prétendu espionnage deux attachés militaires auprès de l'ambassade tchèque à Kiev. La décision ukrainienne n'était pas restée sans suite puisque deux diplomates de l'ambassade ukrainienne à Prague avaient aussitôt été priés de quitter le territoire. La demande d'asile du mari de Yulia Tymoshenko est toutefois pour Prague une affaire délicate. En effet, lors de la visite à Prague en décembre dernier du Premier ministre ukrainien Mykola Azarov, le Premier ministre tchèque avait tenté de réchauffer le climat tendu entre les deux pays. S'il avait rappelé les engagements européens de la République tchèque en matière de droit d'asile, Petr Nečas avait surtout insisté sur le souhait de Prague de voir les relations entre les deux pays repartir sur de bonnes bases.
En République tchèque, la procédure de droit d'asile est fixée selon les standards juridiques de l'Union européenne. La République tchèque et les organes de l'État agissent rigoureusement selon ces standards. Il est vrai que les relations entre la République tchèque et l'Ukraine ont connu des problèmes durant l'année qui vient de s'écouler. Mais je pense que la visite de Mykola Azarov à Prague et la signature de trois accords gouvernementaux montrent que nous avons surmonté cette période et que nos intérêts communs vont connaître une nouvelle impulsion et une nouvelle dynamique.
Petr Nečas en avait aussi profité pour réaffirmer le soutien de la République tchèque dans le dossier des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et l'importance des relations économiques entre les deux pays.
La République tchèque soutient de manière indiscutable l'orientation pro-européenne de l'Ukraine. L'Ukraine fait partie de nos priorités dans le domaine des relations économiques et si nous avons connu une relative baisse de nos échanges commerciaux au cours de la crise de 2009, depuis nous observons un accroissement significatif de nos relations commerciales dont nous considérons qu'elles ont un grand potentiel.
La demande d'asile en République tchèque d'Alexandre Tymoshenko risque toutefois de reléguer au passé ses intentions officielles. L'affaire intervient en outre à un moment où les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne sont particulièrement mauvaises. Bruxelles vient en effet de refuser la signature d'un accord d'association avec l'Ukraine, notamment en raison de l'impartialité du jugement qui a conduit à la condamnation de Yulia Tymoshenko à 7 ans ferme d'emprisonnement. La traditionnelle procession des trois rois mages s'est tenue jeudi dans les rues du quartier du château de Prague. Après avoir été bénis par l'archevêque de Prague, Dominique Duka, Melchior, Balthazar et Gaspard sont allés remettre or, myrrhe et encens à l'enfant Jésus. Retour sur cette manifestation caritative avec Jean-Sébastien Letan.
Le vent froid de Prague n'aura pas empêché les rois mages de se rendre à Bethléem pour offrir leurs présents au petit Jésus lors de la désormais traditionnelle procession des rois mages de Prague. Cet événement religieux célébrant l'épiphanie, surtout destiné aux enfants, permet également à l'église de récolter des fonds pour des organisations caritatives. À 15h30, environ 200 personnes se sont donc rassemblées devant le palais de l'archevêché sur la place du château Radchanské náměstí, où une troupe de gardes d'honneur s'était déjà alignée aux gardes à vous avant de pénétrer dans le palais. Puis, au deuxième balcon de l'édifice, une fanfare militaire est apparue afin de sonner l'ouverture de la cérémonie. C'est au premier balcon du palais que l'archevêque de Prague, Mgr Dominique Duka, s'est avancé afin de prononcer un discours à l'assemblée des croyants. Suite à celui-ci, la porte du bâtiment s'est ouverte et la procession en est sortie. Trois jeunes hommes, juchés sur des chameaux, jouant les rôles de Balthazar, Melchior et Gaspard, ont alors été bénis du balcon par l'archevêque. Les trois cavaliers s'en sont ensuite allés à travers les rues vers la place Loreta, Loretanské náměstí, accompagnés par une troupe d'enfants et d'adultes portant en costume galiléen au son d'une musique médiévale. Cette célébration pragoise n'est pas à proprement parler tchèque et s'inscrit avant tout dans la tradition chrétienne, comme nous le rappelle le père Juan Provecho, prêtre espagnol à la fois administrateur de la paroisse Saint-Thomas de Malastrana et directeur du bureau de presse de la conférence des évêques tchèques.
Cette n'est pas une tradition tchèque, mais une tradition chrétienne. Selon la Bible, quelque temps après que Jésus soit né à Bethléem, sont venus s'incliner devant lui des mages ou bien des rois qui avaient vu une étoile qui les mena à Bethléem où Jésus venait de naître. Ils s'inclinèrent devant Jésus et lui offrirent ses cadeaux de la myrrhe, de l'or et de l'encens. Trois choses. Comme je l'ai dit, c'est donc une tradition chrétienne issue de la Bible.
Mais avant d'arriver à Bethléem et à la crèche située sur la place Loretta, les trois rois ont d'abord dû demander le droit de traverser le royaume du roi des Juifs, Hérode, lequel s'exprimait du haut d'un balcon de la rue Loretanska. Arrivés à la crèche, ils ont pu offrir leurs cadeaux. Mais au-delà du spectacle, cet événement organisé par l'Église catholique est également une œuvre de charité, comme le rappelle le père Provecho.
Il s'agit de deux choses. C'est une procession, c'est-à-dire une manifestation, un rassemblement pieux, mais l'on fait également une collecte pour récupérer de l'argent afin d'aider ceux qui ont besoin d'aide.
Les fonds récoltés iront à des organisations caritatives œuvrant en Afrique. La procession s'est terminée sur des chants de Noël, en attendant la prochaine épiphanie.
Bilan et perspectives. Tels sont au début de cette nouvelle année 2012 les thèmes les plus fréquents traités par l'ensemble de la presse nationale, qu'il s'agisse des domaines politiques, économiques, sociétés ou culturels. Alena Gebertova en a choisi pour vous quelques extraits.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Nous entrons dans cette nouvelle année affaiblie par la perte de Václav Havel, mais renforcée à la fois par la conviction que notre société possède un fondement avec lequel elle peut renouer, peut-on lire dans l'éditorial de l'hebdomadaire Respect, dont l'auteur Eric Tabéré constate.
La Tchéquie et l'Europe ont devant elles, à certains égards, une année difficile. Mais la perspicacité et le courage pourront contribuer à résoudre les problèmes auxquels nous serons confrontés. L'enjeu est de savoir si nous saurons être à la hauteur de la situation. Plus loin, il précise.
Nous avons besoin d'hommes politiques qui auront le courage d'éliminer les problèmes avant même qu'ils ne surgissent. Parmi d'autres exemples pertinents, j'indiquerai l'aide financière que l'on devrait accorder à l'Union européenne au moment de la crise économique. Même si ça nous coûte de l'argent maintenant, à plus long terme, cela permettra d'empêcher des pertes bien plus graves. Ou encore, la restriction de certains acquis sociaux, qui, aussi douloureuse soit-elle, maintenant permettra de stabiliser le fonctionnement de l'État.
Qu'attendez-vous de l'année 2012 ? Rédacteur en chef du quotidien économique Gospodarskie Noviny, Peter Shabata est l'une des personnes interrogées dans les pages de Respect.
Je pense que nous avons devant nous une année difficile, mais pleine d'intérêt, marquée par la condition de l'économie qui va se détériorer. Je crains que les leaders tchèques et européens ne sachent pas maîtriser la situation comme il le faudra. J'espère que la misère économique ne débouchera pas sur des conflits sociaux ou autres, pire encore.
C'est un peu dans cet esprit qu'est également portée une note du journaliste Martin Hell, publiée sur le site ined.cz, dans laquelle il commente l'actuelle situation en Hongrie, en la mettant dans un plus large contexte.
En quelque sorte, la Hongrie matérialise des craintes qui ne sont pas forcément purement hongroises. La crainte de la crise du capitalisme et des marchés financiers, celle de la menace démographique, de la méfiance des uns envers les autres et de l'éveil des démons nationaux. Autant de peurs auxquelles s'ajoute la fatigue des Hongrois des 20 années de transformation et de la mauvaise situation économique dont Viktor Orban a su profiter. J'ai le sentiment que l'évolution dont nous serons les témoins en Hongrie dans les prochains mois et prochaines années risque d'être une préfiguration de la situation dans toute l'Europe.
En dépit du fait que son économie soit en baisse, la République tchèque reste attrayante pour les investisseurs étrangers, peut-on lire dans l'une des dernières éditions du quotidien Lidové Noviny. Se référant aux évaluations des chefs d'une grande partie des entreprises industrielles, le journal constate que celles-ci attendent des recettes stables, voire une faible croissance. Ainsi, rien ne semble signaler une chute de la production industrielle pareille à celle des années 2008 et 2009. Dans la page économique du journal, nous avons aussi pu lire
« L'industrie recrute des gens, l'industrie licencie. Aussi contradictoire soit-elle, ces deux affirmations seront valables cette année. » Avec une tradition remontant à la monarchie austro-hongroise et riche des investissements étrangers qui ont afflué dans le pays au cours des 20 dernières années, l'industrie tchèque possède tous les atouts pour survivre aux ébranlements, pour trouver de nouveaux marchés et pour s'inventer de nouveaux produits.
Parmi les domaines censés éviter la crise de cette année, le journal cite en premier lieu l'industrie des constructions mécaniques et l'industrie automobile. À titre d'illustration, le journal cite le constructeur Škoda Auto qui a présenté un projet ambitieux dont l'objectif d'ici à 2018 est de doubler la production annuelle afin de pouvoir exporter près de 1,5 million de véhicules par an.
La métallurgie et l'industrie alimentaire figurent en revanche parmi les branches qui seront touchées par la crise et dans lesquelles d'importants licenciements sont à attendre.
Les Tchèques sont prêts à adopter un dictateur. C'est ce qu'affirme dans une interview accordée à un des récents suppléments de Lidové Noviny, Pavel Kosatic. Commentateur et auteur d'une série de livres dans lesquels il analyse les différentes personnalités et les moments clés de la nouvelle histoire tchèque. Les titres de ses ouvrages, qui ont d'ailleurs suscité un vif intérêt auprès des lecteurs, sont on ne peut plus éloquents. Les rêves tchèques, les démocrates tchèques, l'intelligentsia tchèque, les moments tchèques.
Dans l'interview en question, Pavel Kosatic s'interroge sur la mentalité de sa nation au sujet de laquelle il dit
« Nous sommes beaucoup plus passifs et en même temps plus moutonniers que les autres nations. Il s'avère que nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes chacun responsables de ce qui se passe ici et que la responsabilité n'incombe pas seulement à ceux qui gouvernent. Un tel comportement augmente le danger de voir s'imposer un dictateur. »
Selon Pavel Kosatic, la société tchèque n'est pas une société stratifiée, comme sous la Première République, où il existait pour les gens mille et une façons de se mettre en valeur, il ajoute.
Beaucoup de gens se comportent aujourd'hui comme s'il existait quelque part une majorité, un juge moral appelé à nous sauver. Mais rien de tel n'existe. De ce fait, les problèmes politiques s'accumulent au lieu d'être résolus. Les psychologues auraient probablement tendance à dire que la nation tchèque est névrosée.
En conclusion, l'écrivain répond par l'affirmative à la question de savoir si les Tchèques ont quelque chose à offrir à l'Europe. Pavel Kosatic explique.
Ce sont notamment les choses ordinaires dont le monde a toujours besoin. Il nous faut être fiables, bien faire notre travail, ne pas blâmer, mais aider l'Europe. Il y a maintenant la crise. Nous nous plaisantons à rouspéter en disant que les grands ne demandent jamais rien aux petits. Or, il y a maintenant une situation idéale pour soumettre les bonnes idées. Mais il n'en est rien. Je sais que les choses ne sont pas aussi faciles que ça, mais nous pourrions au moins faire preuve de notre solidarité, n'est-ce pas ?
La dernière édition de l'hebdomadaire Respect, déjà citée, a donné la parole à Ivan Havel, 73 ans, scientifique et philosophe, frère cadet de l'ex-président défunt Václav Havel. Dans la dernière partie de sa longue interview, Ivan Havel évoque le milieu familial dont les deux frères sont issus. En voici les grandes lignes.
En tant que famille, nous étions assez proches, pratiquement jusqu'à la mort de notre mère en 1970. Je me souviens que, durant les années 50, notre père suivait attentivement les nouvelles internationales. Et lorsque Václav est devenu un dramaturge reconnu, il s'est habitué à suivre en détail et avec orgueil ses succès et leurs échos. Et notre mère a du coup compris que l'œuvre de Václav, auquel elle reprochait parfois sa vie de bohème, avait un retentissement mondial. Notre père, qui est mort en 1979, a encore connu les débuts de la Charte 77. Hélas, ni l'un ni l'autre n'ont vécu assez longtemps pour voir leur fils aîné devenir président de la République. Je pense qu'ils auraient eu du mal à croire qu'une telle chose puisse si tôt arriver.
Merci à Lena Gebertova pour cette revue de presse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. Nasledano, au revoir.